aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 22 mars 2024. Dernier jour de campagne au Sénégal pour la présidentielle de dimanche. 17 candidats briguent les suffrages de 7 millions d'électeurs. Au Sahel, près d'1,8 million d'enfants déplacés en raison des violences selon l'ONG Save the Children. Le Niger a rouvert ce vendredi ses frontières avec le Nigeria.
Donc on a ouvert la voie, tout le monde est content, on est fier et on souhaite que ça continue comme ça.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En RDC, l'ancien ministre Modero Ntsimba devant la justice pour avoir attribué la mort de Chérubin Okende aux frères du chef de l'État. Le projet américain de résolution sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza a été rejeté à l'ONU en raison des vétos de la Russie et de la Chine. Ne manquez pas notre page pro ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dernière journée de campagne au Sénégal avant la présidentielle de dimanche. Les candidats tiennent aujourd'hui leur dernier meeting à travers le pays. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
Les candidats doivent faire leur dernier discours aux électeurs dans la journée. Après le retrait de dernière minute de deux candidats, 17 prétendants restent en lice pour le poste de président. La campagne devant officiellement s'achever ce vendredi à minuit. Le candidat de la coalition gouvernementale et ex-premier ministre Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, figure de l'opposition contestataire, sont considérés comme les favoris. Faye devrait tenir son dernier meeting à 16h GMT dans la ville de Mbour, à l'ouest du pays, tandis que Ba a déclaré que le sien se déroulerait à Dakar et dans sa banlieue. 7 millions de personnes sont appelées à voter dimanche. Celui qui arrivera en tête aura pour mission de sortir le pays de plusieurs années de tensions et de gérer les revenus des réserves de pétrole et de gaz récemment découvertes. Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, ne se représente pas. Un second tour est probable, étant donné le nombre de candidats et la nécessité d'une majorité absolue, mais aucune date n'a encore été fixée.
Une figure de la politique sénégalaise, Karim Ouad, a appelé aujourd'hui ses compatriotes à voter pour le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle de dimanche, apportant à celui-ci un soutien de dernière minute potentiellement significatif. Le choix de Karim Ouad était scruté attentivement. Fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, il était le candidat de l'historique parti démocratique sénégalais, autrefois au pouvoir et qui conserve du poids. Mais les avis divergent sur l'impact de sa décision étant donné les de l'influence du PDS et les dissensions en son sein. Au Niger, une embuscade djihadiste contre l'armée a coûté la vie cette semaine à 23 soldats dans une région proche du Burkina Faso et du Mali, a annoncé le gouvernement. La nouvelle attaque a eu lieu alors que l'armée menait mardi et mercredi une opération de ratissage dans la région de Tillabéri. Un deuil national de 3 jours a débuté ce vendredi, selon un communiqué lu à la télévision publique. Près d'1,8 million d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer au Mali, au Burkina Faso ou au Niger en raison de l'escalade de la violence. Ce chiffre représente 5 fois plus que celui de 2019, selon une étude publiée ce jeudi par l'ONG Save the Children. Les détails avec Nani Talani.
Le nombre d'enfants forcés de fuir leur foyer est passé à environ 1,8 million aujourd'hui, contre 321 000 en 2019, révèle l'étude qui a analysé les chiffres du HCR, des gouvernements nationaux et de l'OIM pour calculer le nombre d'enfants déplacés dans ces 3 pays sahéliens. Le conflit au Burkina Faso, au Mali et au Niger a multiplié par 12 le nombre d'enfants cherchant refuge. En outre, la Côte d'Ivoire, qui est sortie de sa guerre civile en 2011, a également été touchée par les répercussions de la situation au Sahel. La crise largement oubliée dans le centre du Sahel demeure l'une des pires urgences humanitaires au monde, d'autant plus dévastatrice qu'il s'agit d'une crise touchant les enfants et qui frappe l'une des populations les plus jeunes au monde, souligne Vishnacha, une des responsables de Save the Children en Afrique. Des millions d'enfants vivent déplacés, fuyant une violence meurtrière inimaginable, ajoute-t-elle. Les enfants représentent 40% des personnes déplacées dans le monde, selon l'ONU. Mais cette proportion grimpe à environ 58% en Afrique de l'Ouest et centrale. Les enfants y sont aussi confrontés à des attaques violentes et au risque d'être recrutés par des groupes armés.
Cameroun, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé une nouvelle répression du pouvoir de Yaoundé contre l'opposition à l'approche des élections de 2025 après que le gouvernement de Paul Biya a déclaré illégal le regroupement de ses principaux partis dans deux plateformes. En juin 2023, Amnesty International avait aussi accusé le pouvoir de violation des droits humains, notamment en faisant emprisonner arbitrairement des opposants, des civils, des journalistes, des responsables de la société civile et en les faisant juger par des tribunaux militaires en invoquant des actes de terrorisme. En République démocratique du Congo, un ancien ministre et député est jugé depuis hier en flagrance pour un enregistrement audio qui a beaucoup circulé sur la toile dans lequel il met en cause le frère du président Félix Tshisekedi ainsi que le chef des renseignements militaires en rapport avec la mort de l'opposant Chérubin Oukendé. Le point avec Eddy Sango.
Mudiru Ntsimba, ancien ministre du tourisme et député, s'est présenté à nouveau aujourd'hui devant les juges de la Cour de cassation après avoir passé sa première nuit à la prison centrale de Kinshasa. Il est jugé pour imputation dommageable et propagation des faux bruits à l'endroit du jeune frère du président Tshisekedi et du chef des renseignements militaires. L'ancien ministre, transfuge de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila, a nié hier être l'auteur de l'audio qui lui est attribué et qui s'est Christian Tshisekedi et le général Christian Daewel comme étant impliqués dans le meurtre de Chérubin Oukendé. Se basant sur l'autopsie, les parquets avaient estimé que l'opposant s'était suicidé. Selon l'audio, Oukendé s'est disputé une parcelle avec les frères de Tshisekedi. L'opposant a été enterré hier à Kinshasa, 8 mois après la découverte de son corps criblé de balles dans sa voiture dans une rue de la capitale. La famille du défunt rejette la thèse du parquet qui a prévenu qu'il poursuivrait quiconque critiquerait sa décision.
L'opposition en Afrique du Sud a réclamé aujourd'hui la destitution de la présidente du Parlement sud-africain, ce qui s'est mise volontairement en congé spécial après une perquisition à son domicile et des accusations de corruption datant de l'époque où elle était ministre de la Défense. Nosiviwe Mapisa Nkagula, 67 ans, est accusée d'avoir perçu d'importantes sommes en espèces d'un contractant militaire lorsqu'elle était au gouvernement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie et la Chine ont mis leur veto ce vendredi à une résolution américaine soulignant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. L'ambassadeur russe dénonce un texte, selon lui, hypocrite, qui n'appelle pas directement à faire taire les armes. Eric Manirakiza.
La Chine et la Russie ne voulaient simplement pas voter pour un projet rédigé par les États-Unis parce qu'ils préfèrent nous voir échouer que de voir un succès du Conseil, a fustigé l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield, dénonçant une décision cynique selon elle. La résolution notait la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle, soutenant sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus. Après son rejet du texte américain, il est probable, selon des sources diplomatiques, qu'un texte alternatif de plusieurs membres non permanents du Conseil soit mis au vote plus tard dans la journée. Le texte exigerait un cessez-le-feu humanitaire immédiat pour le mois du Ramadan et la libération immédiate de tous les otages. L'issue d'un vote sur ce texte est incertaine. Plusieurs résolutions plus politiques ont été rejetées par des vétos américains d'un côté, russes et chinois de l'autre, ou par un nombre de voix insuffisant.
Un autre vote au Conseil de sécurité de l'ONU est prévu demain samedi. Le vote sur ce nouveau texte, préparé par plusieurs membres non permanents du Conseil, aura lieu demain à 15h GMT. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir, lui, de son côté, au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qu'Israël comptait bien mener une offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, même si les États-Unis devaient ne pas le soutenir. J'ai dit que nous n'avons pas la possibilité de défaire le Hamas sans entrer dans Rafah et sans éliminer les bataillons qui y restent. Les deux hommes se sont entretenus pendant environ 40 minutes ce vendredi matin. La Chambre américaine des représentants a adopté le budget de l'État fédéral pour 2024, provoquant la fureur des conservateurs qui menacent en retour de destituer le chef de l'institution, Mike Johnson. L'élu majoré Taylor Greene, proche de Donald Trump, a annoncé avoir déposé une motion pour destituer ce leader républicain, l'accusant de trahison. Le Congrès doit pourtant à tout prix adopter ce budget de 1200 milliards de dollars avant minuit aujourd'hui pour éviter un assèchement soudain des finances de l'État fédéral. Mais le calendrier est encore très flou sur la tenue d'un vote au Sénat, alimentant les crainte d'une paralysie, même très temporaire, de l'État fédéral, le fameux shutdown. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le rapport annuel de la Fédération internationale de l'industrie phonographique indique que le marché mondial de la musique enregistrée a connu une 9e année de croissance en 2023. Son chiffre d'affaires a atteint 28,6 milliards de dollars. La diffusion en continu représente près de la moitié des ventes avec une hausse de 11% des abonnements streaming comme Spotify, Apple Music ou Deezer. L'on comptait 667 millions d'utilisateurs de comptes payants fin 2023. Le Brésil a abaissé cette semaine pour la 6e fois consécutive son taux directeur à 10,75%. Parmi les autres membres des BRICS, l'Inde n'entrevoit pas de baisse de taux en raison d'une inflation supérieure à l'objectif de 4% fixé par sa banque centrale. La Chine a baissé l'un de ses taux directeurs en juin 2023. En Afrique du Sud, la banque centrale vise une inflation entre 3 et 6%.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Dénouement attendu ce soir dans certaines disciplines aux Jeux africains qui prennent fin ce week-end au Ghana.
Oui, en football, la finale des moins de 20 ans oppose ce soir le Ghana à l'Ouganda. Mais bien avant, le Congo et le Sénégal se disputent la médaille de bronze dans le match pour la 3e place. La République démocratique du Congo est en pole position pour faire mieux que lors de la précédente édition des Jeux africains. C'est ce que nous dit sur place à Accra, Genovitch Mboa, journaliste à Top Congo FM.
La République démocratique du Congo fera mieux qu'en 2019 où elle avait ramené 12 médailles des Jeux africains au Maroc. Là, la RDC pourrait rentrer au pays avec, ou encore elle va rentrer au pays avec 17 médailles. La lutte qui a déjà fini la compétition a ramené 4 médailles de bronze avec au passage une médaille raflée par l'athlète Arambo Issomi qui avait déjà raflé 2 médailles de bronze lors des Jeux africains au Maroc. Et nous étions déjà rassurés de rafler 2 autres médailles en handball. Le handball congolais qui se retrouve en finale, dont les deux versions, les finales qui sont d'ailleurs prévues ce vendredi. Les dames joueront contre l'Angola et puis les hommes joueront contre l'Égypte. Déjà, le fait de se qualifier pour la finale, la RDC était sûr d'avoir une médaille et ça sera l'argent ou ça sera l'or. Et il n'y a pas que le handball en boxe. Il y a 4 médailles de bronze à l'actif des Léopards boxe de la RDC. Suite à l'élimination de ces 4 pugilistes en demi-finale, nous avons Gisèle Nyembo, nous avons Brigitte Mbambi, Nathan Bailey et encore Lazare Bouelouzei. Et l'équipe nationale de la RDC reste avec 2 possibilités, soit or ou argent, par le truchement de 7 boxeurs qui vont pouvoir prester ce vendredi pour la finale du tournoi de boxe.
Genovitch Mboa, journaliste à Top Congo FM.
De nombreux matchs amicaux sur le continent ce vendredi.
Entre autres matchs amicaux, le Sénégal fait face au Gabon à Amiens en France avant son match contre le Bénin le 26. Le Ghana défie le vice-champion d'Afrique, le Nigeria à Marrakech. L'Algérie reçoit la Bolivie et l'Afrique du Sud à Alger. Son voisin marocain accueille l'Angola. L'Égypte, du nouveau sélectionneur Oussama Sane, affronte la Nouvelle-Zélande. Le Burkina Faso s'oppose à la Libye. Le Botswana au Rwanda, la Mauritanie au Mali, le Niger au Togo, l'Ouganda joue contre les Comores.
D'autres pays, eux, disputent le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025.
À Berkane au Maroc, Sao Tomé et Principe fait face au Soudan du Sud ce soir. À Yaoundé au Cameroun, le Tchad affronte l'île Maurice. Hier, l'Iswatini a pris une sérieuse option pour le tour suivant, battant le Libéria 3-0 à El Jadida au Maroc. À Marrakech, Djibouti s'est incliné 0-2 devant le Libéria. Les matchs retour auront lieu le 26 mars. Les vainqueurs de cette double confrontation se qualifient pour la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2025 qui réunit 48 pays.
Page de sport VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Sénégalais se disent prêts à tourner la page et se réjouissent de se rendre aux urnes dimanche pour élire leur prochain président. Ce scrutin intervient après des semaines de débats et de crises politiques, le président sortant Macky Sall ayant tenté de reporter les élections du 25 février de 10 mois, mais sans succès, le Conseil constitutionnel ayant annulé sa décision. Mariama Diallo, envoyée spéciale de VOA à Dakar.
Dans les rues de Dakar, les affiches des différents candidats à la présidentielle sont disséminées dans toute la ville, alors que la population s'apprête à se rendre aux urnes dimanche. Certains ont leurs favoris, mais d'autres disent qu'ils veulent simplement quelqu'un qui unira et fera progresser la nation ouest-africaine. Écoutons Cheikh Ahmed Tidiane Dia et Ibrahim Ndiaye.
Je voterai pour Aliou Mamadou Dia parce qu'il a travaillé pour le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et qu'il a 20 ans d'expérience dans le domaine du développement. Avec cela, je pense qu'il devrait être en mesure de changer le pays.
Pour un développement du Sénégal, un changement radical des institutions et de la manière de gouverner dans notre pays. Moi, je veux un changement, je suis pour un changement.
17 candidats sont en lice pour le poste le plus élevé du pays, dont l'ancien premier ministre Amadou Ba, soutenu par le président Macky Sall. Parmi les autres candidats figure Bassirou Diomaye Faye, un ancien inspecteur des impôts. Il est soutenu par Ousmane Sonko, opposant considéré comme le principal adversaire de M. Sall, mais qui n'est pas éligible cette année en raison d'une condamnation pour diffamation. Faye et Sonko ont tous deux été récemment libérés de prison. Djibril Ngeng est le directeur exécutif du PACT, un groupe de la société civile qui œuvre pour la transparence des élections.
Je voulais simplement peut-être lancer un appel au ministre de l'Intérieur pour que il prenne toutes les dispositions utiles pour que cette élection, qui constitue une étape très importante pour le Sénégal, pour le présent et l'avenir du Sénégal, soit bien surveillée, pour que également cette élection se déroule dans la paix, dans le calme, la paix, et que le scrutin soit un scrutin honnête, transparent et intègre.
De cette façon, dit-il, il n'y aura pas de problème et on peut espérer que le Sénégal redevienne le pays démocratique stable qu'il a été pendant de nombreuses décennies. Mariama Diallo, VOA News, Dakar, Sénégal.
L'un des principaux candidats au scrutin, Khalifa Sall, a repris sa carrière politique après avoir passé plus d'un an en prison pour corruption. Pour ces élections, l'ancien maire de Dakar a fait campagne à vive allure pour succéder au président sortant, Macky Sall. Son portrait avec Thierry Kaoré.
Khalifa Sall, 68 ans, est l'un des doyens du scrutin et totalise plus de 40 ans de vie politique. Plusieurs fois ministre pendant la présidence d'Abdou Diouf, il est élu à la tête de la municipalité de Dakar en 2009 et la dirige jusqu'en 2018. Khalifa Sall est l'un des principaux rivaux politiques du président sortant Macky Sall. Arrêté en mars 2017 et soupçonné d'avoir détourné près de 3 millions de dollars de fonds publics, il fut condamné à 5 ans de prison en 2018 et n'avait donc pas pu se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Gracié en septembre 2018 par le président Macky Sall, il recouvre son éligibilité en 2023 à la faveur d'un dialogue national initié par le pouvoir et prône désormais la réconciliation nationale et la réforme des institutions du pays.
Les épreuves que nous avons vécues, nous avons eu tellement de morts. C'est la première fois que l'on connaît ça. C'est grave et c'est triste pour un pays démocratique qui depuis 64 ans vote, que pour des problèmes de démocratie, de liberté et de manifestation, qu'on ait en ce autant de morts. Il faut que jamais plus que cela ne se passe. Donc il faudra tout réformer. Les institutions, la justice, les règles, tout, il faut tout revoir et il faut le faire avec tout le monde.
Dans son programme de société, Khalifa Sall dit vouloir relever l'économie du pays en consacrant au moins 1 000 milliards de francs CFA du budget annuel à l'agriculture et renégocier les accords de pêche. Il s'engage également à revoir tous les contrats miniers, pétroliers et gaziers et à augmenter progressivement la participation de l'État dans les sociétés d'exploitation.
Reconstruire notre économie en relançant l'agriculture, l'élevage, la pêche, relançant tous les secteurs productifs. On a une population jeune, on a une population décidée, ingénieuse, qui est prête à s'investir si on lui donne les moyens.
L'éducation et la formation professionnelle sont également les priorités de Khalifa Sall pour permettre aux jeunes, dit-il, de jouer un rôle dans le développement et le commerce international.
On a des hommes et des femmes intelligents. On a des gens qui ont du savoir. Ce que nous devons leur donner, c'est le savoir-faire, désormais. Ce sera la priorité dans la politique éducative, éducation, formation professionnelle.
Âgé de 68 ans, Khalifa Sall, qui a été à la tête de la mairie de Dakar pendant 9 ans, espère gagner une fois de plus la confiance des Sénégalais au cours de ces élections.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Les frontières entre le Niger et le Nigeria sont à nouveau ouvertes, désormais des deux côtés. Les autorités nigériennes de transition ont ordonné aux gouverneurs des régions situées sur la frontière de lever les barrières ce vendredi, une semaine après une décision similaire du Nigeria dans le sillage de la levée des sanctions de la CEDEAO le 24 février dernier. Suivons dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, les réactions pour cette réouverture des frontières.
La décision a été exécutée par les différentes autorités régionales. Les points d'entrée officiels sur le territoire nigérien à sa frontière avec le Nigeria sont rouverts à Diffa, à Tawa, à Dosso et à Maradi.
Oui, effectivement, la frontière est ouverte. Tout le monde passe. Il n'y a pas de problème.
El Hadj Seydou Garba, président du syndicat des transporteurs voyageurs de Maradi.
Et les chauffeurs vont à leur préoccupation. Les gens du Nigeria rentrent et les gens du Nigeria rentrent. Il n'y a aucun problème pour le moment. Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que la fermeture, là, on a souffert. Parce que qui peut rester sans travail? Personne. Personne. Donc, on a ouvert la voie un jour. Tout le monde est content, on est fier. Et on souhaite que ça continue comme ça.
Ces habitants de la ville de Koni, dans la région de Tawa, expriment à leur tour leur satisfaction. C'est vraiment ce que nous attendions depuis. Les autorités nigériennes ont pris la bonne décision après celle du Nigeria puisque nous sommes liés. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes en joie parce que nous sommes des commerçants. Nous échangeons avec le Nigeria. Nous ne souhaitons vraiment pas que quelque chose de semblable se reproduise entre nos deux pays frères. Ce n'est pas normal. Nous remercions les autorités des deux pays. Il y a eu mésentente et Dieu a permis que les choses rentrent dans l'ordre. Nous lui rendons grâce et tout sera comme auparavant entre nous, s'il plaît à Dieu. À présent que les voies officielles sont réouvertes, Abdou Mahamadou, maire de la commune de Koni, lance un appel à ceux qui, au moment de la fermeture, utilisaient des voies de contournement. Il y a beaucoup de risques sur ces routes de contournement. Puisque la voie officielle est désormais réouverte, ils doivent revenir l'emprunter pour leur propre sécurité et celle des biens et des personnes. C'est le message que je veux leur porter. Dans le message ordonnant la réouverture, instruction a été donnée de renforcer le dispositif de contrôle à l'entrée comme à la sortie. La frontière avec le Bénin, elle, reste toujours fermée du côté du Niger malgré la levée des sanctions. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les Nations Unies marquent ce vendredi la journée mondiale de l'eau avec le constat d'un risque croissant de conflits autour des ressources en eau alors que le changement climatique s'intensifie. Pendant ce temps, l'organisation humanitaire Oxfam accuse les grandes entreprises mondiales de s'emparer de l'eau des pays les plus pauvres pour accroître leurs profits, comme le rapporte Henri Rigouel depuis Londres. Le récit avec Eric Manirakiza.
À Johannesburg, en Afrique du Sud, les robinets sont à sec. Le système d'approvisionnement en eau de la ville s'est effondré, affectant des millions de personnes. À Soweto, en périphérie de la ville, des milliers de personnes font la queue chaque jour pour recueillir de l'eau fournie par des camions-citernes. Tabisile Nchunu est une habitante de Soweto.
It has been a serious challenge.
C'est un véritable défi, une période très difficile pour mon âge que de devoir porter ces seaux de 20 litres. Et ce qui est triste, c'est que nous ne savons pas quand nos robinets seront à nouveau alimentés en eau.
L'effondrement des infrastructures est en partie la cause, mais les scientifiques affirment que le changement climatique provoque l'assèchement des rivières et des réservoirs en Afrique du Sud et dans de nombreuses autres régions du monde. Alors que les Nations Unies marquent ce vendredi la journée mondiale de l'eau, on estime que 2,2 milliards de personnes vivent sans eau potable, gérée en toute sécurité. Selon les scientifiques de l'ONU, environ la moitié de la population mondiale est confrontée à une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année. Les nations les plus pauvres du Sud, aux pays en développement, étant les plus touchés. Dans un nouveau rapport, l'organisation humanitaire Oxfam accuse les grandes entreprises mondiales de s'accaparer et de polluer des ressources en eau vitale au détriment des populations locales dans le but de réaliser des profits. Quentin Guesquière travaille pour Oxfam France.
L'eau est surutilisée par les pays du Nord, ce qui prive les pays du Sud de l'accès à l'eau.
Oxfam accuse les pays riches et les multinationales de déplacer la pression de l'eau vers les régions plus pauvres en extrayant l'eau des ressources naturelles à des fins industrielles ou agricoles et en important des produits à forte consommation d'eau tels que les fruits, les légumes, la viande, les fleurs et l'eau en bouteille. Le rapport indique que l'agriculture représente 70% des prélèvements d'eau, notamment par le biais de systèmes d'irrigation destinés à soutenir l'industrie de la viande et des biocarburants. Mais l'analyse d'Oxfam suggère que le secteur privé ne parvient pas à réduire son impact sur les ressources en eau, Quentin Guesquière explique.
Sur 350 entreprises analysées dans la base de données qui représente la moitié du chiffre d'affaires agricole mondial, seulement une sur quatre déclare réduire l'utilisation de l'eau et la pollution.
Cette année, les Nations Unies mettent en garde contre le risque croissant de conflits liés à l'eau. Selon elles, les nations qui gèrent le changement climatique, les migrations massives et les troubles politiques doivent placer la coopération dans le domaine de l'eau au cœur de leur plan.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïmard. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.